Et vous êtes à l'écoute de votre station numérique par excellence, fidèleauposte.com. Et voici maintenant votre émission Voyage-Voyage avec votre animateur André Bouchard. Bienvenue, chers internautes, sur votre radio numérique Internet fidèleauposte.com pour votre émission Voyage-Voyage. Ici votre animateur André Bouchard. Et voici les sujets qui nous a fait plaisir de sélectionner pour aujourd'hui, en espérant que vous les apprécierez. Eh bien, d'abord, le bilan de la 36e édition du Salon du livre de Trois-Rivières avec Evelyne Charland. Ensuite, l'écrivain international Danny Laferrière, en résidence lors de ce même salon, se racontera quelque peu. Par la suite, la 5e porte avec Louis Mignot, qui est lauréat de ce grand salon du livre. Par la suite, la tournée des 4 saisons avec le maestro François Chouanière. Également, les Nuits d'Afrique avec Barbara Pizzani. Et nous compléterons avec une genre de croisière On Cruise Adventure en Alaska, qui était présenté au Salon plein air avec Barbara Lindberger. Voyage, voyage. Là-dessus, ici André Bouchard qui vous souhaite bonne écoute, chers internautes, sur les ondes de votre radio Internet fidèleauposte.com pour votre émission Voyage, voyage. Et comme on le sait, c'était le 36e salon du livre de Trois-Rivières. Et pour nous parler justement de ce magnifique salon et ce bilan, j'accueille avec plaisir Evelyne, qui est la directrice générale, qui a bien voulu nous accorder cette entrevue. Alors bonjour Evelyne Charland.
Bonjour.
Edith, Evelyne, comment ça... Faire un petit bilan rapide, là.
Oui. Et
comment ça s'est déroulé à ce salon du livre de Trois-Rivières?
Ben écoutez, ça s'est... s'est déroulé de façon absolument magnifique. Je dirais que c'est au-delà de nos attentes. On a toujours beaucoup de plaisir au Salon du Livre. On est toujours heureux après, puis les gens sont contents. Mais cette année, il y avait comme quelque chose dans l'air d'un peu plus émouvant, plus touchant. Tout le monde était toujours de bonne humeur. Donc, il y a eu vraiment énormément de visiteurs. On est très contents d'annoncer un record de visiteurs. Donc, il y a eu 17 666 visiteurs. Puis, si on compte le hors les murs, là, plus de 21 680 lecteurs et lectrices ont été touchés par le Salon du Livre. Donc, pour nous, c'est vraiment une mission accomplie. On est content, on est fatigué, mais heureux.
Mais d'ailleurs, je crois qu'également, les invités étaient de choix, dont le président d'honneur ainsi que le porte-parole, je pense que...
Oui, tout à fait. La présidente d'honneur, qui était Nathalie Petrovski, a été absolument très sympathique tout au long de la fin de semaine. Et puis l'écrivain en résidence, Daniel Laferrière, qui a fait fureur, qui nous a lu des textes différents chaque soir, puis qui a fait quand même quelques petits numéros drôles. On l'a vu danser le hula hoop avec son cerceau tout en lisant. C'est quelque chose de particulier à voir. On a la vidéo sur notre site Internet, d'ailleurs.
Et si on parlait d'un fait marquant là, qui vous a frappé particulièrement, Evelyne, qu'est-ce que tu dirais?
Ah, ben il y en a eu plusieurs, évidemment. Plusieurs activités très, très, très fortes. Évidemment, on ne peut pas passer sous silence la visite de Jeannette Bertrand, qui est venue nous voir vendredi après-midi. Elle a donné une super longue entrevue chaleureuse sur scène avec Patricia Powers. Et puis ensuite, la séance de dédicace, il y avait beaucoup de monde qui était là pour venir la voir. Ça a été très, très, très émouvant. Et puis elle est repartie en disant qu'elle aime ça faire ça puis qu'elle veut revenir l'année prochaine. Donc, on la prend au mot.
Est-ce qu'on peut dire que ce salon, c'est de bon augure pour les prochaines années? Parce qu'avec ce succès sans équivoque, là...
Oui, tout à fait. En fait, notre petite nouvelle équipe, depuis 3 ans, on est une nouvelle équipe à l'organiser. Et puis là, vraiment, là, on est sur notre air d'aller. Je pense qu'on a pris, tout le monde a pris son aise dans son nouveau poste. Et puis vraiment, on pense déjà à l'année prochaine. On a déjà des idées. Je pense que c'est très prometteur.
Alors, on peut dire qu'on est à la fois local, régional, national, international, votre salon.
Oui, on est planétaire.
Alors, c'est intéressant de ce côté-là. Alors, vous aviez un message à lancer dans les circonstances pour compléter ce beau 36e anniversaire du Salon du Livre de Trois-Rivières. Qu'est-ce que tu dirais, Evelyne?
Comme message, j'ai pas grand message autre que continuez de lire, continuez de vous intéresser aux livres, aux auteurs, aux illustrateurs, à tous les créateurs et créatrices de livres. C'est très important, puis on sent que les lecteurs sont là. Donc, ça nous fait chaud au cœur.
Et même en papier également, maintenant aussi.
Oui, tout à fait.
Ah, c'est intéressant de ce côté-là aussi. Alors, merci beaucoup, Evelyne Charnand, pour cette entrevue. On vous félicite pour cette belle organisation qui a attiré tant de monde à Trois-Rivières, entre autres, on pourrait dire la cité de la Violette.
Oui, exactement. Merci beaucoup. Merci à vous.
Au revoir. À la prochaine.
Oui, au revoir.
Et là-dessus, une pièce musicale.
C'est une langue belle, avec des mots super. Elle porte son histoire à travers ses accents, où l'on sent la musique et le parfum des airs, le fromage de chèvre et le pain de froment. Et du Mont-Saint-Michel jusqu'à la Contrescarpe, en écoutant parler les gens de ce pays, on dirait que le vent se prit dans une lame et qu'il en a gardé toutes les harmonies. Dans cette langue belle aux couleurs de Provence, où la saveur des choses est déjà dans les mots, c'est d'abord en parlant que la fête commence. Et l'on boit des paroles aussi bien que de l'eau. Les voix ressemblent au cours des fleuves et des rivières, elles répondent aux méandres, au vent dans les roseaux, parfois même au torrent qui charrie les tonnerres, en polissant les pierres sur le bord des ruisseaux. C'est une langue belle à l'autre bout du monde, une bulle de France au nord d'un continent, sertie dans un étau mais pourtant si féconde. Enfermé dans les glaces au sommet d'un volcan, elle a jeté des ponts par-dessus l'Atlantique. Elle a quitté son nid pour un autre terroir, et comme une hirondelle au printemps des musiques, elle revient nous chanter ses peines et ses espoirs, nous dire que là-bas, dans ce pays de neige, elle a fait face au vent qui souffle de partout, pour imposer ses mots jusque dans les collèges, et qu'on y parle encore la langue de chez nous. C'est une langue belle à qui sait la défendre. Elle offre des trésors de richesse infinie, les mots qui nous manquaient pour pouvoir nous comprendre, et la force qu'il faut pour vivre en harmonie. Et de l'île d'Orléans jusqu'à la contrescarpe, en écoutant chanter les gens de ce pays, on dirait que le vent s'est pris dans une harpe et qu'il a composé toute une symphonie. Et de l'île d'Orléans jusqu'à la contrescarpe, en écoutant chanter les gens de ce pays, on dirait que le vent s'est pris dans une harpe et qu'il a composé toute une symphonie.
Alors, c'est un grand plaisir de rencontrer Danny Laferrière, qui est l'invité d'honneur et également l'écrivain, l'auteur en résidence au Salon du Livre de Trois-Rivières, qui va nous donner ses impressions, mais également de son côté littéraire également. Alors, bonjour, Danny.
Bonjour. Ben, je vous remercie de m'accueillir si favorablement. Et je tiens à préciser aussi que si je suis l'invité d'honneur, Nathalie Piotrowski en est la présidente d'honneur. C'est une vieille amie que j'ai retrouvée avec plaisir à ce Salon du Livre où j'ai déjà été invité. Je suis déjà venu à Trois-Rivières aussi quelques fois pour le Festival de Poésie qui est connu internationalement. Donc c'est une ville et d'ailleurs qui m'a touché, puisque en Haïti aussi je crois qu'il y a une ville qui s'appelle Trois-Rivières. Et il y a toujours ce côté de Trois-Rivières, il y a un côté presque mystique dans la culture haïtienne avec ces Trois-Rivières. Donc être là au Salon du Livre parmi tous ces écrivains qui viennent de partout pour se entrer en communion avec les lecteurs et les lectrices de Trois-Rivières, ça me fait plaisir.
D'ailleurs, on peut dire que la littérature, c'est un genre de voyage spécial quand même.
Ah, mais c'est un voyage continu, qui a commencé très tôt, avant même parfois d'avoir quitté son village. Et on ouvre un livre et on est déjà en mouvement. Et plus tard, si jamais cela nous fait plaisir d'écrire aussi, et d'entrer avec joie dans le territoire infini de l'imaginaire en se servant des lettres de l'alphabet, c'est aussi un autre voyage.
Et vous avez parlé de Bornéo récemment, à quel sujet?
Eh bien, Bornéo, c'est un nom comme ça qui m'a plu. C'est pas une ville, c'est un territoire, c'est près de l'Indonésie ou en Indonésie même. Et c'est un pays... J'avais lu ça dans un magnifique livre de Pablo Neruda, le poète chilien, et ça s'appelle « J'avoue que j'ai vécu ». Il racontait ses déboires quand il était consul à Bornéo. Mais j'ai aimé le nom du pays et j'ai imaginé que j'étais à Bornéo. Et j'aime bien imaginer être dans un pays que je n'ai jamais visité. Et j'aime bien aussi décrire ce pays-là comme un espace de rêve.
Également, je sais que, selon mes informations, vous êtes un éminent membre de l'Académie française et je sais que vous préparez tout un ouvrage à ce sujet-là. De quoi s'agit-il?
Non, il s'agit qu'on vient de terminer la 9e édition qui nous a pris 40 ans et les éditions du dictionnaire sont souvent très longues à préparer et est-ce pourquoi nous faisons attention aux mots que nous mettons dans le dictionnaire pour que ce soit pas trop éphémère. Vous savez, les mots nouveaux, les néologismes, des fois, il y en a qui rentrent et ça ne tient pas 10 ans. Donc, il faut faire attention pour savoir si le mot est devenu un mot d'usage, un mot utilisé couramment, mais qui a résisté au temps. Donc c'est une opération presque de chimie où il faut presque peser les choses, et de physique, et de poids et mesure, et pour, parce qu'un mot a une saveur, vous savez, et a une couleur, et le mot aussi a un poids. Et d'ailleurs on dit le poids de mot.
Monsieur Laferrière, vous aviez un message à lancer à nos auditeurs ou internautes. Qu'est-ce que vous diriez? Avez-vous un petit poème à nous donner en même temps?
Ah oui, je peux quand même vous donner un poème, vous lire quelque chose. Je vais peut-être le faire en direct et quelques-uns même à partir des petites fiches que j'ai qui sont dans mon livre. Avant, je croyais que les choses comme les êtres ne se révélaient qu'en leur profondeur. En fait, tout se passe à la surface.
Et quel est le livre?
Et le livre, c'est Un certain art de vivre, où je parle du temps et je dis simplement, le temps nous enveloppe pour nous consoler ou nous étouffer. Ce n'est pas juste de tout mettre sous le dos du temps.
Et à quel endroit, où peut-on trouver ce magnifique petit volume poétique?
Le livre, Un certain art de vivre, se trouve dans toutes les librairies en ce moment. Il vient de paraître aux éditions Boréal.
Denis Laferrière, merci beaucoup. J'allais dire bon succès dans tous vos projets littéraires. Et merci de cette belle entrevue. À la prochaine.
Et bien merci de cette rencontre aussi avec un homme si agréable, accueillant, sympathique comme vous. C'est une des raisons pour écrire, c'est pour rencontrer les gens. Vous avez parlé beaucoup de voyages, mais aussi la rencontre avec quelqu'un qu'on ne connaît pas et qui nous plaît est aussi un voyage.
Et la réciproque s'applique. À la prochaine.
Merci.
plaisir de rencontrer un écrivain qui a écrit un livre intéressant, La cinquième porte. À l'occurrence, Louis Mignot, qui va nous parler justement de son bel ouvrage et que j'ai le plaisir de saluer. Alors, bonjour Louis Mignot.
Bonjour. Ça me fait très plaisir. Et vraiment, c'est un livre qui raconte le cheminement de ma vie parce que je suis né dans un chac à bûcherons, dans le fond des bois, dans les cantons de l'Est. Et je me suis retrouvé à grandir dans le faubourg Amelas, sur la rue Lagostière, là où il y a la tour de Radio-Canada maintenant. C'était ma maison. Et c'est un endroit que j'ai choisi moi-même à 5 ans. Et c'est ma première porte. À 5 ans, je suis tombé en amour dans une maison où ma mère voulait me placer parce qu'elle ne pouvait pas s'occuper de moi. J'avais pas de père. Et je suis tombé en amour avec une crèche de Noël extraordinaire, comme j'en avais jamais vu. Et la femme voulait pas m'avoir. Elle m'a refusé parce qu'elle pensait que j'étais l'enfant du démon. Elle avait raison, d'ailleurs, parce que j'étais l'enfant du démon de midi. Mais ça, je l'ai découvert seulement à 75 ans.
Une porte vraiment spéciale. Il va être évolution dans ça. Vous dites la cinquième porte. Pour quelle raison?
Ben parce que tout le roman qu'on a à voir avec la recherche du père. J'avais pas de père. J'avais une mère, mais c'est comme si j'en avais pas. Et essentiellement, j'ai passé ma vie à me demander qui était mon père, parce que on me disait que l'homme dont je porte le nom, c'était pas mon père. Mais je savais pas qui c'était. Et c'est à 76 ans, grâce à l'ADN, que j'ai retrouvé qui était mon père.
Incroyable.
Et avec ça, j'ai retrouvé mes racines dans la région de Sherbrooke. Et je suis revenu dans mon pays après avoir vécu ma vie professionnelle à Toronto.
Et justement, à Toronto, qu'est-ce que vous avez fait à Toronto?
Ben, j'étais professeur de français. D'abord, professeur de littérature. Ma spécialité était André Malraux. Il y a dans mon livre...
L'écrivain français.
Dans mon livre, il y a une entrevue unique, inédite, avec André Malraux. Que personne n'a lu, sauf si vous avez lu mon livre.
C'est exclusif à votre livre.
À mon livre. C'était une expérience extraordinaire.
Et pourquoi André Malraux?
Parce que depuis que j'ai fait philosophie en France, je m'intéressais à l'existentialisme. Je ne me suis jamais intéressé à la philosophie aristotélicienne ou platonique ou Descartes, là, tout ça, le cartésianisme, ça me faisait trembler. Je m'intéressais depuis le début à Pascal, à Montaigne, dans mes études classiques. Et après, eh bien, à Kierkegaard, qui était le père de l'existentialisme chrétien moderne. Et j'avais un professeur de philo en France extraordinaire qui m'a encouragé dans cette voie-là. Et de fil en aiguille, je suis devenu petit à petit athée, extrêmement catholique que j'étais. Je suis allé vers l'athéisme. Et là, en faisant mon doctorat, j'ai fait une thèse sur André Malraux parce que je trouvais que tout ce que Sartre et Camus et Simone de Beauvoir ont jamais dit après, Malraux l'avait dit 15 ans plus tôt. Et donc, j'ai écrit ma thèse pour explorer la philosophie existentialiste à travers les romans d'André Malraux.
Alors, c'est un peu l'essence de votre livre actuellement que vous avez édité récemment.
Oui, exactement, mais ça va plus loin parce que ça se développe sur l'amour. Il y a une grande histoire d'amour qui a été l'amour de ma vie, qui est morte du cancer.
Ah oui.
Et ensuite, j'ai trouvé mon père. Qui était mon vrai père biologique? C'est un test d'ADN qui l'a prouvé.
Et c'est une belle découverte positive.
Ça a été une découverte extrêmement positive parce que ça m'a ramené dans mon pays. J'habite maintenant dans le pays où habitait mon père. Et j'ai toute une famille, il avait 14 enfants. Je suis le 14e, le bâtard.
Alors, c'est tout un exploit, si l'on peut dire, en quelque sorte. Alors, quel est le message dans les circonstances que vous laissez, Louis?
Le message, c'est qu'il faut sauter dans la vie sur toutes les occasions que l'univers nous présente pour petit à petit trouver le sens de sa vie. Ça prend une vie entière. Et la phrase capitale de mon livre, c'est une citation d'André Malraux. Vivre, c'est transformer en conscience le plus grand nombre d'expériences possibles.
Alors, tout un voyage, en quelque sorte, un beau cheminement, en quelque sorte.
Et vous voyez que dans mon livre, à chaque porte, je m'arrête pour réfléchir de ce que j'ai appris, où j'en suis, là. Et j'ai passé par tous les excès, les extrêmes, par l'utopie, j'ai cherché l'utopie, et puis, finalement, je suis revenu dans mon pays natal comme Ulysse qui revient chez lui à Ithaque à la fin de l'Odyssée et qui dit « C'est ici la sagesse, c'est là que j'appartiens ».
Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage.
C'est comme ça que se termine mon livre. Et comme celui-là qui conquit la toison, il reste. Bon. Donc, ça me fait très plaisir de pouvoir en parler comme ça. Je vous remercie beaucoup.
À la prochaine. Merci beaucoup.
Merci.
Et puis, félicitations.
Merci beaucoup. Et demandez mon livre à la bibliothèque. Ils vont vous le commander pour vous. De la meilleure façon.
Et maintenant, du côté d'une grande organisation orchestrale, en l'occurrence les productions GFN, avec le maestro François Choignard, qui veut nous parler d'une belle tournée nord-américaine pour les quatre saisons. Et j'ai le plaisir de saluer. Alors bonjour, maître ou monsieur le maestro François Choignard. Monsieur Choignard, quand on parle d'abord de votre organisation, c'est quoi ça, les productions GFN et également les quatre saisons?
Donc, GFN Productions, c'est une maison de production basée à Montréal. qui produit principalement des expériences symphoniques, soit avec film en synchronisation ou aussi la musique classique. Et on fait un peu le tour de la région et on produit à travers le Canada aussi. Mais cette année, on fait notre première tournée nord-américaine incluant 3 dates aux États-Unis. C'est les 4 saisons de Vivaldi et de Piazzolla avec la violoniste exceptionnelle Isabella Deloise-Perron. Et on part pour 15 spectacles de Montréal. On va à Québec, on va à Trois-Rivières, on va à Saint-Jérôme, on va à Toronto et Hamilton, à Calgary et Vancouver, et aux États-Unis, pour une première fois, les 3 dates à Philadelphie, Boston et à New York, on fait la grande salle à Carnegie Hall.
Oh là là. Alors, c'est un grand voyage musical, en quelque sorte.
Oui, absolument.
Et qu'est-ce qui vous a amené, justement, à être si étendu que cela?
Bien, cette tournée, maintenant, c'est notre 3e édition. Au début, ça a commencé beaucoup plus petit, avec juste 2 villes, Montréal et Québec. La deuxième fois, après le succès qu'on a eu, on a grandi un peu la tournée. Et cette fois, c'est le plus grand qu'on a jamais fait. Mais on a vu juste la réaction avec la violoniste exceptionnelle.
Mm-hmm. Ouais, parlez-nous de la violoniste. Là. Je pense que c'est un grand talent. Alors...
Un grand et un jeune talent aussi. Je le connais depuis 5 ans et on fait des tournées ensemble depuis. Elle est vraiment exceptionnelle et elle peut faire facilement les deux styles, le baroque avec le Vivaldi ou aussi la passion aussi du tango qu'on joue avec les 4 saisons de Buenos Aires de Piazzolla. Donc elle est vraiment polyvalente et expressive. Et même quand j'ai connu il y a 5 ans, c'était un grand talent, mais avec sa maturité maintenant, elle devient de plus en plus...
s'appelle... elle a un nom, Isabelle Deloise Perron.
Oui. Mm-hmm.
Et est-ce qu'un autre... Aussi, question de Piazzolla. Qu'est-ce qu'il y en a à ce sujet-là concernant votre accompagnement?
Donc, le Piazzolla, c'est un peu inspiré des 4 saisons de Vivaldi. Donc, dans les airs de tango qu'on fait, il y a des citations du Vivaldi à travers l'œuvre. Donc, de programmer un après l'autre, ça se fait très, très bien. On voit un peu l'évolution de cette grande œuvre.
Et si vous nous parlez de l'orchestre philharmonique, de quoi est-elle composée?
Donc, l'orchestre philharmonique, avec un M, était basé à Montréal aussi, était fondé pour principalement les grandes productions de ciné-concerts avec film, donc où on projetait le film, un film comme Star Wars ou Seigneur des Anneaux, et on interprétait la trame sonore en direct. Mais ces temps-ci, son image a développé beaucoup plus, et sa mission aussi, c'est vraiment de rendre la musique classique accessible à un plus large public. Et depuis 5 ans, on tourne plusieurs productions incluant...
J'aurais dû dire de quoi est-il composé, parce que c'est masculin quand même, là. Alors, ça veut dire que vous avez des projets toujours plein la tête, et à quoi faut-il s'attendre maintenant pour la prochaine tournée? Comment voyez-vous cette prochaine tournée?
Bien, la prochaine tournée, c'est définitivement le plus grand et le plus ambitieux. On espère que tout se passe bien, particulièrement aux États-Unis. C'est notre première fois d'aller dans une autre ville, dans une autre... De passer aux États-Unis au lieu du Canada. Qui
est notre destination quand même pratiquement internationale. Ça veut dire que de plus en plus, vous devenez international.
Absolument.
J'avais une invitation à faire à nos internautes ou mélomanes ou amateurs de musique. Qu'est-ce que vous diriez pour les convaincre justement d'assister à ces concerts hors de l'ordinaire?
Mais c'est un concert, je crois, qui plaît à tout le monde. On a même beaucoup beaucoup de gens, depuis qu'on a commencé cette tournée, qui reviennent voir ce spectacle parce qu'ils étaient très, tellement impressionnés. L'autre chose, c'est que vous pouvez aussi avoir un petit avant-goût avec l'album qu'on vient tout juste de sortir. C'est les quatre saisons de Vivaldi et Piazzolla, un album qui a été lancé juste hier.
Mm-hmm.
Donc, c'est disponible sur toutes les plateformes si vous voulez un petit avant-goût du concert.
Quand vous dites plateforme, quel endroit, par exemple?
Spotify, Apple Music, toutes les plateformes digitales, YouTube.
Et si on veut plus de renseignements, Maestro, concernant justement ces concerts, qu'est-ce qu'on doit faire?
Toutes les dates de la tournée sont disponibles sur le site web de GFN Productions, donc c'est grnproduction.ca.
Alors, très intéressant. Merci beaucoup pour tous ces renseignements. On souhaite de magnifiques concerts tout au cours de votre tournée, j'allais dire nationale puis internationale. Et on vous dit à la prochaine, Maestro Chouanière. À la prochaine.
À la prochaine, merci.
Et après cette belle composition de Vivaldi, soit un concerto allegro pour mandoline, et non pas son quatre saisons qui est également si populaire. C'est un plaisir de rencontrer Barbara Pizzani, qui est en fait la vice-présidente de Cinéma Gattuso, Guttuso, qui sont très connus, comme on le sait. Alors, Barbara, je sais que vous avez présenté un 40e anniversaire du Festival international du cinéma d'Afrique. Alors, quelle est l'implication, justement,
de Guzzo à l'intérieur de ce beau projet.
Alors, nous en sommes très fiers. Nous sommes co-présentateurs avec Québécois pour le festival au complet. On les reçoit, on les accueille dans notre cinéma à Marché Central. On va présenter 140 films. On aura la soirée d'ouverture, des ciné-concerts, la cérémonie de clôture et d'autres surprises aussi. Alors, nous sommes très heureux de pouvoir les avoir avec nous cette année pour célébrer leur 40e parce que le cinéma Guzzo célèbre notre 50e. Alors, on fait un pierre deux coups à ce moment-là.
Mais c'est un événement important, comme on le sait.
Ah, ben oui. Mais
est-ce qu'un moment là qui va être plus justement intéressant que les autres, ou du moins...
Il y a toujours quelque chose de très beau quand on touche un 40e, quand on touche un anniversaire quelconque. Et puis, le cinéma Guzzo a toujours fait la promotion de l'interculturalisme, de la diversité et tout. Alors, on trouvait l'opportunité était belle. On s'était impliqué l'année passée. On les avait accueillis pour la soirée d'ouverture. On a adoré la collaboration. Ça a été vraiment un coup de foudre amical et collaboratif avec le festival. Alors, quand ils nous ont approchés pour pouvoir les accueillir pour le festival au complet, on n'a même pas hésité.
On sait que ce festival est vraiment africain. Alors,
et
créole également. Alors, est-ce qu'on peut dire que ce festival est fait pour demeurer tellement qu'il y a beaucoup d'intérêt?
Moi, je pense que oui. Est-ce que vous vous demandez s'il va demeurer avec nous en général?
Alors, en général aussi.
Bah oui, je dirais, premièrement, l'intérêt est là. Il y a des films de qualité qui en sortent. Il y a des grands cinéastes qui se font faire valoir à travers le festival Vue d'Afrique. Et après ça, bon, ils font leur chemin dans le mainstream, comme on dit. Alors, si on a l'opportunité de pouvoir les faire valoir dans nos cinémas, nous, on est très heureux.
Bizarre. Barbara, vous aviez une invitation à faire à nos internautes, auditeurs de radio, pour les convaincre à assister justement à ces beaux spectacles, à ce beau voyage cinématographique. Qu'est-ce que vous diriez?
Moi, je dirais honnêtement de venir découvrir les bijoux cachés des films africains et créoles qu'on a à présenter. Il y a eu une sélection très difficile à faire parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de candidats qui ont présenté leurs films. On en a choisi 140. Enfin, le festival a choisi 140. Ils sont tous un plus beau que l'autre. Alors, moi, je pense que ce sont des belles découvertes et que ça vaut la peine de se déplacer au cinéma pour venir voir les films du festival.
Et pour plus de renseignements concernant ce 40e festival du cinéma international d'Afrique,
Il faudrait vraiment aller sur le site web de Vue d'Afrique. Toute l'information est là. Alors, la programmation, je pense, va être mise en ligne bientôt, si ce n'est pas déjà fait. Mais essentiellement, avec le site web et dans les réseaux sociaux, vous allez trouver toute l'information et la programmation et les activités spéciales du festival.
Alors, Barbara Pidjani, vice-présidente des cinémas Guzzo, merci beaucoup de cette entrevue. Puis on vous souhaite de nombreux spectateurs cinéphiles, amateurs d'Afrique également, à ce beau festival 40e anniversaire.
Merci à vous. Merci à vous.
Alors, c'est un grand plaisir maintenant de nous transporter en quelque sorte en croisière avec Un Cruise Adventures qui va nous faire visiter l'Alaska principalement, mais qui fait d'autres îles. Et ça, en compagnie de Barbara Nienberger, qui est en fait la représentante au Canada de cette organisation de croisière, et que j'ai le plaisir de saluer, et également notre traducteur Louis, qui va nous donner l'idée. La traduction au fur et à mesure. Alors, bonjour, good day.
Bonjour et merci.
Bonjour.
Alors, Barbara, quand on parle d'abord d'Un Cruise Adventures, c'est quoi cette organisation?
Uncruise Adventures, c'est une organisation où on fait pas la même tradition de les grosses croisières. Qu'est-ce qu'on a? C'est des petits bateaux avec 22 passagers à 86 passagers. Et puis, les bateaux sont plus petits, ce qui veut dire qu'on peut aller où ce qu'on veut sans avoir des problèmes à cause de la grosseur et de la géographie.
Et quelles sont les îles que vous faites avec cette croisière?
C'est plutôt l'intérieur de l'Alaska qu'on fait. Alors, c'est pas vraiment comme... on commence à Juneau. Alors, c'est là où on doit prendre notre vol puis arriver à Juneau. Puis si on regarde les trajets qu'on fait, c'est tout l'intérieur de l'Alaska. Alors, on va à des petits villages. On va rentrer dans des fjords. Tout dépend l'itinéraire. Si on est en train de voyager puis on voit une famille d'ours, on va arrêter le bateau puis on va retourner pour voir les ours. Alors, c'est ça qu'on fait. C'est la bouffe et 5 étoiles. Il n'y a pas de Wi-Fi, il n'y a pas de casino, il n'y a pas de piscine. Tu es pas forcé, mais tu finis par rencontrer les autres passagers. Tu es là pendant une semaine jusqu'à 14 jours, tout dépend de l'itinéraire que tu veux, et tu rencontres la nature. Alors, le bateau, c'est pas le star, le bateau, c'est juste le moyen de transport à t'envoyer à des places où aucune autre personne peut aller.
Barbara, la best season, quelle est la meilleure saison?
So, for Alaska, it would be starting in April, next month, and it will go until September, maybe early October. For many people, they want to see Aurora Borealis, and those lights, they would come April and September is the best time of year.
Oui, Louis.
Bien, c'est pour l'Aurore boréale, c'est un cycle de 11 ans. Maintenant, en 2024, c'est maintenant où l'aurore boréalis est à son maximum. Ce qui veut dire que si vous voulez le voir, vous n'allez pas durant l'été en Alaska. On a les croisières durant l'été parce que c'est presque jour toute l'été. Alors, on n'a pas beaucoup de noirceur. Ouais. Mais durant le mois de octobre et novembre, c'est là où on a des septembre et octobre, c'est là où on peut voir des meilleures chances de voir l'aurore boréale.
Et quand on parle également de quand il y a 20 personnes possibles et de quelle manière ça fonctionne sur la croisière? Est-ce que vous avez des arrêts qui se font de stop sometime ou tout se fait tout d'un bloc?
Non, on a des guides qui sont avec nous sur le bateau. C'est des personnes locales qui connaissent l'Alaska comme l'arrière de leur main. Alors, c'est vraiment eux qui vont nous montrer où on va aller. On va aller sur des îles où il y a des ours. On peut faire du kayak, on peut faire du paddleboard, mais il y a des places qu'on va arrêter, voir des petits villages, converser avec eux. Eux vont nous montrer leurs traditions. C'est des choses qu'on peut faire parce que notre bateau est petit. Il peut rentrer dans les fjords jusqu'au petit village. Et puis, il y a un itinéraire comme ça. Mais comme on dit, si jamais on voit des orcas ou des baleines humpback, on arrête le bateau, puis on regarde et puis on continue pas notre itinéraire en genre de « Oh, faut aller au prochain stop vite, vite. »
Et à bord de température, what about the weather, la température? Qu'est-ce qu'il y en a à ce sujet-là? What?
So on April, in English, sorry, in April and September, you're maybe looking at temperatures that would be around 14, 15 degrees Celsius. The summertime, you have the midnight sun, so you're looking at 22, 23. But because you're on coastal temperatures, they can vary throughout the day.
Oui, Louis.
Oui, ben, durant le mois d'été, vu qu'on a le soleil presque 24 heures par jour, c'est un peu plus chaud, mais quand même, si on parle de 15 degrés, 16 degrés, mais c'est plutôt parce qu'on est près de l'océan Pacifique, on est dans les fjords, puis on est aussi dans les où il y a les montagnes, alors il peut y avoir beaucoup de pluie ou pas de pluie non plus.
Est-ce que des voyages toute l'année? All the year?
Pour Alaska, no. It's April until September. But our other destinations, like Baja California, they would be January until April. Hawaii is also a winter month, so January till April. And then we also do Galapagos, and that's quite year-round.
Oui, Louis?
Pour les Galapagos, c'est presque toute l'année. Les croisières de l'Alaska, c'est du mois d'avril au mois de novembre, ou octobre, pardon. Et puis pour Hawaï, c'est durant aussi hivernal. Et Baja California va finir maintenant parce que les whale sharks et les baleines humpbacks sont en train de monter vers le nord. Les whale sharks vont aller vers Hawaï et les humpbacks vont aller vers l'Alaska.
Barbara, what invitation, message to our auditor and for invitation for your travel?
You're asking.
Quelle est l'invitation que vous faites à nos auditeurs et internautes pour les convaincre, to convince to visit with your organization?
The customers that are usually interested in such a trip, they're adventurers. Whether it's family, they come from different lifestyles, different age groups, but they want to unplug. They want to really have a small group experience, and that's the beauty of UnCruise. It's a family company, and it's a family feeling on board.
Oui, pour les familles, c'est vraiment bon pour nous parce qu'on a les plus petits bateaux, alors on peut faire des choses intimement avec les autres passagers sur le bateau, apprendre comment parler avec eux. Tu peux pas faire ça sur un bateau de croisière avec 5000 personnes. T'en rends compte, mais c'est pas une semaine. Oui.
Alors, pour plus d'informations, more information, website?
UnCruise.com, and you can switch the English to French with a click of a button.
Alors, c'est UnCruise, UnCruise.com, puis en bas à la droite du site web, tu peux changer la langue en français, et tout le site est en français.
Alors, thank you very much. Merci beaucoup pour l'interview. At the next time. Thank you.
Merci à tous. Thank you.
Merci beaucoup.
Et voilà qui termine, chers internautes, cette émission Voyage Voyage sur votre station numérique fidèleauposte.com. J'espère que vous avez apprécié. Évidemment, vous avez des commentaires ou suggestions. Il me fera plaisir de les recevoir au courriel suivant. André Bouchard 84 @commercial.gmail.com. Là-dessus, ici André Bouchard qui vous souhaite une bonne semaine, remplie de bonnes découvertes ici et là, et qui vous dit à la prochaine.